Un petit bonjour, chers amis, de ma part, surtout peut-être pour ceux qui sont en visite. Je vois pas mal de visages, j'imagine, en visite. Peut-être vous cherchez, vous, une église. Si c'est le cas, alors prenez le temps aujourd'hui d'échanger un peu avec moi-même, avec Benjamin, avec Samuel aussi, l'un des responsables de l'église. Nous serons contents de vous exposer un peu plus ce que nous sommes en tant qu'église, ce que nous voulons faire en tant qu'église. Et si vous êtes en visite, ben, venez nous saluer. Ça fait plaisir, chers amis, de pouvoir vous saluer. Vous êtes peut-être impliqués ailleurs et c'est très bien. Et donc, que le Seigneur vous bénisse lors de votre passage parmi nous. Juste peut-être un tout petit mot à ceux qui reçoivent le WhatsApp de l'église. C'est la dernière possibilité, chers amis, de cocher ce formulaire pour indiquer vos intentions pour le week-end d'église. Nous devons trancher ce week-end, en principe. Donc, merci, chers amis, d'indiquer là, si vous le pouvez, ce que vous en pensez de la possibilité, oui ou non, d'un week-end d'église. Alors, vous avez, je l'espère, toujours le texte ouvert sous les yeux, soit via le lien que vous trouvez ici dans le livret, soit dans votre propre Bible en papier. Peut-être que vous avez encore cela, c'est très bien. Soit éventuellement via l'application du livret. Je mentionne juste cela parce que parfois on ignore que tout cela est aussi disponible sur une application. Comment avoir cette application? Je n'ai aucune idée, mais il faut, je pense, scanner quelque part ou regarder vos mails autrement. Donc, mais c'est juste pour signaler parce que c'est bien fait l'application du livret. Ce n'est pas juste le document, c'est bien conçu. Donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, alors voici le défi de la semaine d'un point de vue technique pour vous. Et vous pouvez le scanner, Samuel me le dit, de par un truc, un code QR qui se trouve dans le livret. Si vous êtes perdu, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous avons le texte biblique sous les yeux. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 18, jusqu'au verset 9 du chapitre 19. Alors, je vais prier. Et si vous voulez suivre le plan de ce que nous essayons de voir ensemble, vous avez ce petit papier aussi dans le livret qui vous aide à voir ce que nous allons couvrir ensemble. Donc, prions ensemble, chers amis. Seigneur, nous venons de chanter que nous te demandons de briller sur notre face et que c'est à tes pieds que nous avons notre place. Et nous te demandons, Seigneur, qu'à travers ce que nous lisons et nous méditons dans ta parole, de par l'œuvre de ton esprit, que tu nous aides à voir qu'effectivement notre place, c'est à tes pieds et que tu brilles sur nous ta face encore aujourd'hui. Donc, sois à l'œuvre et nous te prions, notre Dieu, et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, j'aimerais commencer, si vous voulez bien, avec la bonne nouvelle. Pas de surprise qu'une église commence avec la bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ, car l'église de Jésus-Christ annonce la bonne nouvelle concernant Jésus. La paix avec Dieu à travers Jésus. La grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Jésus est au centre de cette bonne nouvelle, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, disait l'apôtre Paul en citant le prophète Ésaïe lorsqu'il parlait de la nouvelle que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité, et c'est en lui, en Jésus, que nous pouvons être justifiés, en bon ordre avec Dieu. Car ainsi nous sommes sauvé, car c'est une annonce liée à une bonne nouvelle de salut que Dieu opère à travers Jésus-Christ. Et comme toute nouvelle qui est bonne, cela se partage. Quand on se réjouit de ce que cela donne, les GBU appellent leur conférence héros parce qu'ils veulent annoncer cette nouvelle qui est bonne. Nous ne contentons pas de garder ce qui est bon pour nous. Nous pensons à ces deux annonces que Benjamin faisait dans la prière. Là, tantôt, il priait, mais ainsi, il annonçait aussi la naissance d'Eliana ce dernier temps, mais aussi le mariage hier de Bénédicte et de Wim. On partage de ces choses. J'ai envoyé des photos hier de ce mariage auquel j'ai assisté parce que c'était une bonne nouvelle. On se réjouit. Alors pourquoi cet accent dans, tout d'abord dans cette prédication et après ce texte sur la bonne nouvelle? Parce qu'ici, dans ce récit de Samuel, nous avons affaire à un épisode où il y a une bonne nouvelle qui n'en est pas une. Et c'est triste qu'il soit ainsi. Alors voyons cela un tout petit peu dans la partie du texte que nous n'avons pas lu. Verset 19 du chapitre 18, il y a Achimatz, le fils de Tzadok, qui dit à Joab, donc le bras fait, si on veut, du roi David, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui dit, « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » David lui-même, ensuite, il s'attend à une bonne nouvelle. Il anticipe une bonne nouvelle. Sentinelle lui annonce l'arrivée d'abord d'Achimatz, qui avait insisté d'y aller et qui a trouvé moyen, lui, de courir plus vite que l'Éthiopien qui était envoyé avant lui par Joab. Et au verset 25 de ce texte, le roi dit, « S'il est seul celui qui arrive, il apporte quoi ?» De bonnes nouvelles. Ensuite, verset 26, la sentinelle voit l'autre homme qui court seul, Achimatz. Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. Donc la tension monte, il s'attend à des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? En apprenant que le premier homme est Achimatz, le fils de Tzadok, David dit, c'est un homme de bien. Il vient apporter quoi? De bonnes nouvelles. Même lorsque l'Éthiopien, lui est sur le point enfin d'annoncer à David la mort de son fils. Il y a de l'ironie dans le texte, car au verset 31, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'ils ont à annoncer à David. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. Le roi 32 demanda à l'Éthiopien, « Le jeune Absalom, va-t-il bien ?» L'Éthiopien répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon Seigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. » Voilà, la bonne nouvelle est annoncée. Enfin, oui, Absalom, rebelle contre le roi choisi par Dieu, il est mort. La victoire du vrai roi, légitime, est assurée. Et cela, le texte veut que nous comprenions que ce soit le cas, est une bonne nouvelle, mais qu'il n'en est pas une. Car le fils de ce même roi est mort. Et David, et peut-être vous l'avez entendu lors de la lecture de Catherine là-dessus, lorsqu'il apprend cela, il pleure, il crie. Il s'agit donc pour lui d'une victoire amère, cette bonne nouvelle. Donc nous avons une triste histoire d'une victoire amère pour un roi endeuillé par la mort de son fils. La victoire, verset 3 du chapitre 19, fut changée en deuil pour tout le peuple. Alors que pouvons-nous retirer donc de cette histoire, nous, si nous sommes empêchés, un peu comme c'était le cas pour les soldats lors de la victoire, de nous réjouir dans la victoire. C'est ça la question, je pense, lorsque nous abordons ce chapitre et demi ensemble. Car force est de constater que l'accent dans le récit, qui tourne autour de cette victoire militaire écrasante d'Absalom et ses hommes, ne tombe quasi pas du tout sur la bataille elle-même. On entend très peu sur la bataille. Dans les trois versets seulement du chapitre 18, versets 6 à 8, la bataille elle-même est racontée. Non, l'intérêt de l'auteur, c'est plutôt dans certains détails autour de cette victoire qui retiennent notre attention. Pourquoi cela? Alors voyons ensemble ce que je vous propose, c'est trois axes principaux ce matin. D'abord, le destin ou le sort de ceux qui ne s'humilient pas devant le roi. Le sort qui attend ceux qui ne s'humilient pas devant le roi. Ici, bien entendu, nous parlons d'Absalom, ce fils impressionnant de David. Rappelons-nous de ce que nous avons déjà vu dans les prédications précédentes à son sujet. Il est populaire. Il est réputé pour sa beauté. Il avait de longs cheveux impressionnants, d'après le chapitre 14, verset 26. Un beau garçon, si jamais il y en a eu un. Il a tenté sa chance de saisir le trône de son père, David. Et juste avant ce chapitre 18, on aurait dit qu'il a bien réussi. Il réussit à faire fuir David, le roi David, de Jérusalem. Et donc, il saisit les instruments de pouvoir au cœur de la vie d'Israël, le temple, les prêtres, l'armée, et ainsi de suite. Chapitre 15 nous dit que le cœur des Israélites s'est attaché à lui. Mais si vous étiez des nôtres la semaine dernière, vous n'avez pas oublié, aujourd'hui j'imagine, de ce que nous avons entendu à son sujet au chapitre 17, verset 14. Or, l'Éternel, Dieu, avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Tout ne va pas tourner dans la faveur d'Absalom, comme lui, il imagine, sera le cas. Et donc, lorsque le récit de la bataille nous offre soudain un gros plan sur Absalom, nous anticipons à partir du verset 9 sa chute, parce que nous avons chapitre 17 en tête. Verset 9, il montait un mulet, pas loin de là où il y avait des serviteurs de David. Et nous dit le texte que le mulet pénétra sur les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. À cause peut-être de ses longs cheveux dont il était fier, on ignore en fait les détails. Ce n'est pas explicité. En tout cas, résultat, il reste suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il monte est continué son chemin. C'est une scène un peu comique, n'est-ce pas? Il me fait penser d'ailleurs à des super-héros de l'un de mes films préférés, Les Indestructibles, si vous avez vu ça de Pixar, il y a maintenant une vingtaine d'années. Ceux qui sont tout fiers, ces super-héros, de leur costume de super-héros, mais avec cape. Mais chaque fois, la cape de ces super-héros se coince, soit dans la voiture, ou soit dans l'avion, ou soit dans un autre truc qu'ils utilisent. Et de par cela, ils connaissent une fin douloureuse. Combien pour finir, nous disant, regardons ce film, ils ont l'air ridicules, ces super-héros. C'est vrai, on rigole par rapport à cela. Et c'est exactement cela, le ressenti que nous donne ce texte d'Absalom. Le grand champion, suspendu dans l'air, il ne peut rien faire. Le serviteur de David, qui n'était pas loin d'Absalom à ce moment-là, témoin de ce qui arrive à Absalom, il a le temps d'aller rapporter ce qui a eu lieu à Joab. Et ensuite, Joab, lui, a le temps d'aller voir Absalom. Et Absalom, dans tout ce temps, n'a plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe lorsque Joab arrive sur place? Avec trois javelots, il les enfonce dans le cœur d'Absalom. Le coup de grâce, parce qu'il paraît qu'il n'était pas encore mort à ce moment-là, est administré par 10 hommes de l'entourage de Joab. Verset 17, ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Wow. Dans si peu de temps, chers amis, celui qui semblait être si puissant, semblait avoir le pouvoir en Israël, semblait avoir un long avenir devant lui en tant que roi d'Israël, il est mort, abandonné dans une grande fosse pour tombe. Si à un moment donné tu appuies sur pause au milieu d'un film d'un vrai super-héros, vous allez savoir qu'il y a toujours un moment où l'ennemi semble avoir là-dessus. Il faut laisser jouer la totalité du film entier pour voir le sort de l'ennemi. Le sort d'Absalom n'est pas beau. C'est violent à la fin, n'est-ce pas? Ce qui était, lui, en apparence, si beau avant. Et il y a une couche, je pense, supplémentaire d'ironie que l'auteur souligne à la fin. Verset 18, il nous dit, du chapitre 18 toujours, « De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Il se disait en effet, « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. » Il voulait donc être grand, voulait qu'on se souvienne perpétuellement de lui comme étant quelqu'un de grand. Mais au lieu de se souvenir d'un grand roi se tenant sur une pierre dans son monument, on se souvient là maintenant plutôt de lui comme le rebelle ridicule qu'il était et de sa fin misérable enterrée dans une fosse en dessous d'un tas de pierres, pas au-dessus, tout fier de ce qu'il est. Alors telle est la fin de ceux qui ne s'humilient pas devant le roi choisi par Dieu. La rébellion, tôt ou tard, termine par la défaite dans le récit biblique, dans le récit de notre histoire dans lequel Dieu s'est inséré. Dieu se révèle, il nous a donné déjà le sort ultime de ceux qui se rebellent contre lui. Pendant un temps, bien sûr, de ne pas se soumettre à Jésus-Christ, le roi désigné par Dieu, Dieu lui-même venu en chair et en os. Ben, cela, pendant un temps, allait tout à fait raisonnable. Jésus lui-même disait que la porte est large, le chemin spacieux qui mène à la perdition. Mais beaucoup entrent par là. Ça ne vous a jamais fait réfléchir, ça? Pourquoi ils entrent par là? C'est nul, ça va vers la perdition. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être plus facile. Ça a l'air de marcher. Si vous voulez, ils arrêtent, eux, le film avant d'arriver au dénouement. Alors ne faites surtout pas cela, chers amis. Combien c'est facile encore aujourd'hui de choisir une voie qui ne cherche pas à se soumettre à Jésus-Christ comme notre roi. Chacun sa vérité, quelqu'un me disait, rien qu'hier. Bien sûr, dans un sens, chacun sa vérité, s'il n'y a que une multitude de prétendants, ça nous le comprenons. Mais il n'y a qu'un seul qui vient véritablement de Dieu. Le Christ seul révèle Dieu. Il est le roi choisi par Dieu. Se fier donc à des monuments que je construis, qui me conviennent selon mon goût à moi, selon ma tradition, selon ma culture, ce serait de terminer comme Absalom, vaincu et sous le jugement juste de Dieu. Le serpent dans la Bible, le diable, continue bien entendu à faire son travail encore aujourd'hui, de semer le doute au sujet de la parole de Dieu, au sujet de la bonté de Dieu, au sujet même du jugement de Dieu. Il remet toutes ces choses en question et on est toujours tenté de croire ce qu'il dit. Mais la fin de l'histoire est laquelle? Le serpent sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, vaincu définitivement. Et cette victoire a déjà été annoncée par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Je cite Colossiens dans le Nouveau Testament, chapitre 2, verset 15, qui nous dit « Dieu a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » La victoire finale est assurée. Et donc, prenons conscience, chers amis, de cette défaite d'Absalom. Soyons assurés d'ailleurs que si nous vivons encore lors d'une époque où les ennemis de la croix semblent avoir le devant, leur fin, c'est la destruction, la perdition. Rappelons-nous même de Judas, lui qui, après sa trahison de Jésus, était aussi pendu sur un arbre. Et puis ses restes ensuite sont tombés dans un endroit qu'ils appelaient le champ du sang. La victoire sur les ennemis de Dieu viendra. Et donc ne vous découragez pas, chers amis, si dans votre situation vous vous demandez « Mais qu'est-ce que je fais ?» en train encore d'essayer de suivre Jésus-Christ. Proverbe chapitre 16, verset 5 nous dit quoi ? Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Nous voyons cela dans le cas d'Absalom. Et cela nous mène, je pense, à cette deuxième observation que j'aimerais que nous méditions ensemble. Quand bien que la défaite d'Absalom soit prévue, prévisible et d'une certaine manière donc réjouissante, il y a cet élément perturbant que nous ne pouvons pas totalement effacer dans ce récit, l'ambiguïté quand la justice manque. L'ambiguïté quand la justice manque. Et cette ambiguïté est présente au début du coincement d'Absalom. Car le serviteur de David, qui voyait Absalom suspendu dans l'arbre, il rappelle à Joab ce que David, le roi, avait ordonné au sujet de son fils au début de ce chapitre. Et donc, du coup, il sert pour nous rappeler ce que David avait dit à sujet de son fils. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Pour amour de moi, pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. D'entendre, donc, Joab, il s'en fiche de cet ordre, de son roi, dès le début, ça nous met mal à l'aise, n'est-ce pas ? D'entendre qu'Absalom est abattu par 10 membres de la garde de Joab, cloche un petit peu, non ? C'est mérité, peut-être, mais ce n'est pas ce que voulait le roi. Ce n'est pas conforme à l'ordre du roi. Mais ce qui est ambigu, c'est que le roi choisi par Dieu, il se trompe dans l'ordre qu'il donne. Si vous voulez, ici, David, il ressemble à un patient qui dit à un chirurgien, avant de se faire opérer de son cancer, « Soyez doux avec mon cancer, si vous voulez bien. Car après tout, ça fait partie de moi, d'une certaine manière. » Non, il faut traiter le cancer sévèrement, le plus sévèrement possible, pour qu'il disparaisse. C'était nécessaire. Absalom menaçait le royaume. Sa défaite et son humiliation étaient nécessaires pour Israël. Une conférence de paix proposée au moment de la bataille aurait eu l'effet d'encourager le rebelle à croire que la lutte contre David était juste, qu'il méritait en quelque sorte qu'un accord paisible soit conclu avec eux. Alors peut-être parfois cela est nécessaire dans la politique, mais pas lorsqu'il est question du roi choisi par Dieu. Soit nous nous sommes alignés à lui, soit nous sommes contre lui. La justice demande que les ennemis de ce roi soit vaincu. David veut, si on veut, une version de justice light. Et cela ne va pas. Et donc, ça cloche que David veut à tout prix qu'Absalom soit sauvé, bien plus qu'il veut la victoire. C'est bizarre de lire ce chapitre lorsque nous voyons cela. Joab est celui, en fait, qui voit plus clair que le roi là-dessus. C'est ainsi qu'il agit, malgré les ordres du roi. D'où vient l'intervention très forte de Joab au chapitre 19. Car il apprend, Joab, que le jour de la victoire est changé, verset 3 du chapitre 19, en deuil pour tout le peuple. Car le peuple entendait dire, le roi est rempli de chagrin à cause de son fils. Et ce jour-là, verset 4, le peuple rentra dans la ville comme un voleur, comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. Joab trouve rapidement le roi, verset 6, il l'interpelle, il dit l'équivalent de ben « reprends-toi, mec !» à son roi. Mais ça va pas ce que tu fais. Tu couvres, il dit, aujourd'hui de honte tes serviteurs. Alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et tes filles, celle de tes femmes et tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Bah, ça pique ce que Joab dit à David, n'est-ce pas? Mais il fallait piquer. Car David s'en fiche de la justice dans cet instant, accablé par son propre deuil. Et Joab l'appela à l'ordre. Sans doute, il exagère un peu dans ses propos, mais il fait exprès d'exagérer pour piquer. Comme parfois, lors d'une vive discussion qu'il peut y avoir entre hommes et femmes, ou entre deux amis proches, entre deux collègues, etc. Cela nous arrive aussi d'exagérer fait de l'effet. Et c'est pas qu'il faut prendre ce qu'on dit dans de tels moments tout à fait à la lettre, nous le comprenons bien. Et l'effet que cela produit marche dans cette histoire. Lève-toi, il lui dit au verset 8 à la fin. Sors et parle au cœur de tes serviteurs, sinon ils ne resteront pas avec lui. Alors verset 9, le roi se leva. Le peuple enfin le voit. Et donc Joab sauve la situation. Et donc lorsque nous lisons cela, je pense que nos émotions sont un peu aussi dans tous les sens. Nous sommes méfiants envers Joab et son regard trop léger à propos de la volonté du roi. Mais nous sommes en même temps reconnaissants que voilà quelqu'un qui comprend le besoin de justice qu'il y a. L'ambiguïté, donc, règne quand la justice manque. J'ai entendu cette semaine parler d'un homme qui, une fois que les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour sa femme et qu'il devait donc éteindre la machine dans sa chambre d'hôpital, a refusé de les laisser faire car il était convaincu qu'elle pouvait encore l'entendre dans son lit. Et donc la seule façon d'y parvenir était de sortir une arme et ordonner au médecin de sortir de la chambre. Avant qu'une équipe SWAT n'arrive pour le confronter à l'hôpital, sa femme lui a effectivement répondu en lui serrant la main. Donc on a envie de dire, oh, amen, t'as pu faire ce qui était nécessaire. Mais on a aussi envie de dire, bon, ça va pas que tu sors une arme à l'hôpital. Okay? C'est bien et c'est pas bien. C'est ça l'effet de ce chapitre. Cette même ambiguïté se trouve aussi dans l'Église. Lorsque quelqu'un agit parfois indépendamment des responsables, pour reprendre quelqu'un pour une faute grave au sein de l'Église, que ce soit une faute doctrinale, quelqu'un nie l'un des fondements de la foi, que ce soit une faute morale grave, quelqu'un est en train de faire quelque chose que même les païens ne font pas, que ce soit quelqu'un qui sème la division au sein de l'Église. Et quelqu'un voit ça, mais voit que les responsables ne sont pas en train de réagir ou d'agir pour protéger le troupeau. Et donc, ils prennent un peu la responsabilité eux-mêmes en main. Tant qu'il n'y a pas de justice, tant que ceux qui ont la responsabilité ne font pas ce qui est leur responsabilité, et du coup, ça provoque d'autres de faire ce qu'ils ne devraient pas normalement faire, il y a de l'ambiguïté aussi dans l'Église. Alors, prions dans notre Église que de telles situations n'arrivent pas parce que les responsables restent concerné par la justice dans une situation ou une autre. Mais nous ne pouvons pas terminer là, car si David ne cherche pas la justice dans ce cas, et c'est le cas, nous devons poser la question du pourquoi. Et ça, ça nous mène à notre troisième axe d'observation, la douleur d'une justice sans compassion, la douleur d'une justice sans compassion. Le texte souligne la peine ou la douleur de David par rapport à Absalom. Et c'est troublant lorsque nous le lisons. Pourquoi autant de soucis pour Absalom d'ailleurs? Parce qu'après tout, au chapitre 14, peut-être vous vous souvenez de cela, Joab a pu réussir à ramener Absalom à Jérusalem suite à son bannissement pour le meurtre d'Amner, son frère. Pour le viol de Tamar. Donc Joab arrive à faire revenir Absalom après une absence de plusieurs années. Et David, à ce moment-là, il arrivait quand même avec son fils, qu'il n'a pas vu depuis un long moment, il arrive de ne pas aller le voir à Jérusalem pendant 2 ans. Donc ce n'est pas qu'ils sont super proches, okay, avant cet épisode de bataille et de rébellion d'Absalom. La transformation de David comme celui qui a perdu un proche intime nous surprend en partie, en tout cas. C'est son souci majeur ici dans ce récit, la protection d'Absalom avant que la bataille soit menée. Et chapitre 19, verset 1, lorsqu'il apprend la mort d'Absalom, il monte dans sa chambre située au-dessus de la porte. Et il pleure. Il disait tout en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Et ce cri, je pense, fait réfléchir, car nous savons qu'effectivement, suite à son propre péché, David, il méritait, lui, la mort au chapitre 12. Mais Dieu, lui, a fait grâce. Mais Dieu lui avait dit à ce moment-là, chapitre 12, verset 10, qu'une conséquence de son péché, le péché de David, parce qu'il avait tué Uri, le mari de Bathsheba, par l'épée, cette conséquence sera que l'épée ne s'écartera jamais de sa maison. Il avait, David, agi en secret à ce moment-là, mais Dieu allait faire tomber ce jugement de façon publique sur David. Et David n'a pas oublié cette prophétie. Et donc, je pense en grande partie, il pleure, car il voit sa propre culpabilité pour l'enclenchement de ces événements en cours. Si lui, il a été gracié, il est peiné de voir que la justice tombe sur son fils et pas sur lui. Si seulement j'étais mort à ta place, il dit. Si d'un côté, Joab voit clair sur la question de justice qui manquait, il ne perçoit pas la culpabilité qu'il y a dans le cœur de David. Le besoin de tout homme coupable de trouver de la compassion pour pouvoir en sortir. J'imagine que Joab aurait réagi si on lui avait expliqué cela, juste avant qu'il tue Absalom. J'imagine qu'il aurait dit, bah, pas de temps pour des âmes troublées, tu sais. Il nous faut des actes décisifs. On y va, point, on n'en parle plus. Mais David, en fait, lui, il voit plus loin le besoin de l'homme d'être pardonné. Tout en maintenant, en même temps, bien entendu, la justice de Dieu. Voilà pourquoi je pense qu'il aurait aimé pouvoir mourir à la place de son fils. La culpabilité est réelle pour David. La culpabilité est réelle pour tout homme pécheur. Et elle est lourde à porter lorsque nous sommes confrontés réellement à notre culpabilité. Vous savez, on essaye parfois à cacher notre culpabilité en essayant, un peu comme David, avec des gestes qui démontrent notre gentillesse, notre utilité pour les autres. Si nous sommes actifs, nous pouvons un peu repousser la question de la culpabilité, parce qu'au moins nous nous occupons à faire quelque chose de bien. Nous essayons ainsi de ne pas y penser à notre responsabilité. Moi-même, je me souviens d'avoir passé un moment, je sais que vous pouvez mal imaginer ceci, un moment un peu rebelle à l'école lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Et mes parents assistaient à une réunion de parents avec les profs, auquel je savais que ça allait être un bilan super négatif par rapport à moi. Je n'étais pas à la réunion avec eux. Et lorsqu'ils sont rentrés de cette réunion à l'école, j'ai essayé de les empêcher de parler en leur disant tout ce que j'avais fait de bien à la maison pendant leur absence. Que j'avais fait la vaisselle, le ménage, ma chambre, mes devoirs, etc., etc. Et je continuais à parler pour qu'eux ne puissent pas m'arrêter et me confronter avec ma culpabilité. Et à un moment donné, mon père me disait « Stop, Steve ». Et ensuite venait la mauvaise nouvelle que je ne devais pas entendre. Alors devant Dieu, toutes nos fautes seront révélées. Nous ne pouvons pas empêcher cela à long terme. Ce n'est pas en mettant notre culpabilité de côté, en essayant d'attirer l'attention vers mes qualités, que j'arrive à effacer mes péchés. Ce n'est même pas que je peux payer, moi, pour la culpabilité de quelqu'un d'autre, comme d'une certaine manière David essayait de faire, ou voulait faire, par rapport à Absalom. Pourquoi ça? Parce que je ne suis pas, et David n'était pas innocent lui-même. Et Absalom n'était pas innocent lui-même. Et donc, substituer la culpabilité de quelqu'un d'autre avec ma culpabilité ne marche pas. Dieu reste juste et sa justice doit tomber. Mais c'est pour cela, n'est-ce pas, chers amis? Je sais que peut-être vous vous attendez à ceci, mais il faut terminer avec ceci. Que dans l'Église, la bonne nouvelle, on est une. C'est une bonne nouvelle pour cette raison-là. Une vraie bonne nouvelle que nous annonçons. La bonne nouvelle d'un roi qui, lui, pleure aussi au moment où il doit faire face au jugement de Dieu lorsqu'il est puni sur une croix romaine. Lorsque le Saint-Courroux de Dieu tombe sur lui, mais pas parce que lui, il est condamné pour ses péchés, non. Comme dit le prophète Ésaïe, il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté nos souffrances. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il peut, lui, prendre la place des pécheurs parce que lui n'a jamais péché. Il est le roi qui donne sa vie comme une rançon pour beaucoup, afin de satisfaire la justice de Dieu. Et en ce faisant, il pourvoit le seul moyen pour nous libérer de notre culpabilité. David, lorsqu'il crie « mon fils », il fait écho, sans le savoir, on imagine, de passer propos douloureux du cri du Fils de Dieu, Fils de David par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque lui, il crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est uniquement là, à la croix, où Dieu, dans son immense bonté, arrive à être à la fois parfaitement juste, il punit le péché, et à la fois parfaitement compatissant. Romains chapitre 5, l'apôtre Paul dit, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » Alors arrêtons de trouver un autre moyen de connaître l'approbation de Dieu, chers amis. Sachez qu'en Christ, il y a un pardon définitif pour nos péchés. Réjouissons-nous de pouvoir voir la réalité dont David ne pouvait pas lui connaître, même s'il nous pointe lui vers cette réalité dont nous avons tellement besoin. Si le besoin de justice est encore là, c'est le cas, nous voyons encore un besoin de justice dans notre monde. Nous avons chacun d'entre nous, au-delà de la justice, besoin de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Et cela n'est pas l'un aux dépenses de l'autre, justice ou amour, mais c'est l'un avec l'autre. Et cela, nous le trouvons uniquement en Jésus-Christ. Donc réjouissons-nous de cette bonne nouvelle que nous annonçons, chers amis, que nous avons à proclamer encore parmi nous. Nous allons proclamer cette bonne nouvelle lorsque nous prenons ensemble les symboles de cette mort sur la croix à notre place. Nous allons chanter « Rédempteur adorable », je pense dans un instant. Et le premier strophe nous dit quoi ?« Rédempteur adorable sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé, Jésus, pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. » Merci notre Dieu pour cette bonne nouvelle. Amen.